Radio Vatican, France et Afrique.
Vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre programme dont voici les principaux titres. Le pape François a rencontré en audience les recteurs des universités publiques de Rome et de la région du Latium. Assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire, on en parle en actualité de l'Église avant de nous rendre notamment au Togo, le Togo qui a rouvert ses frontières après 2 années de fermeture. Et à la fin de l'actualité sociale et politique, nous vous proposerons un entretien autour de la Journée mondiale des télécommunications avec le professeur Bagoula. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Le pape François a rencontré en audience les recteurs des universités publiques de Rome et de la région du Latium. Il les a invités à fonder leur enseignement sur un héritage plus large que celui des Lumières, loin de toute idéologie et porteur de paix auprès des étudiants. Françoise Niamien.
Le pape a reçu en audience mardi les recteurs de 13 universités publiques, étatiques et non étatiques de Rome et du Latium. Il a à l'occasion approfondi l'un des thèmes clés de son magistère, la croissance et l'instruction des jeunes traversant la dernière phase des études, la phase académique. Sens critique, saine confrontation, dialogue. Voilà les 3 piliers d'une véritable formation humaine intégrale, a indiqué le Saint-Père, qui ne peuvent se développer sans un 4e, la liberté. Un des écueils de la formation académique est de reproposer des schémas dépassés, l'héritage universitaire des Lumières, qui, en pratique, remplit d'idées la tête des jeunes. Ces schémas, a indiqué François, n'éduquent ni le cœur ni les mains des étudiants et n'en font pas des individus complets, capables de contribuer librement à la société, loin d'idéologies qui ôtent la vision universelle du monde. Pour François, une tâche de la plus haute importance attend aujourd'hui les universités, en ce moment historique particulier entre pandémie, guerre mondiale, questions environnementales globales et croissance des inégalités. Cette période demande de la part du corps enseignant un grand investissement éducatif, a estimé le pape.
Françoise Niamien. Le pape François a adressé un message aux œuvres pontificales missionnaires à l'occasion de l'ouverture lundi 16 mai de leur assemblée générale à Lyon en France. Delphine Allaire.
Invitant à marcher dans le sillon de Pauline Jaricot, grande femme missionnaire, le pape a d'abord rappelé combien elle aimait à dire que l'Église est missionnaire par nature. Par conséquent, tout baptisé a une mission, aider à vivre cette conscience est le premier service des œuvres pontificales missionnaires, a assuré François, développant plusieurs aspects de leur vocation. Tout d'abord, la conversion missionnaire. La beauté de la mission dépend du chemin de sortie de soi, du désir de ne pas centrer sa vie sur soi, mais sur Jésus, qui est venu pour servir et non pour être servi, à relever le pape. Ensuite vient la prière comme première forme de mission, sans elle tout est course vaine. Et enfin la charité, avec le réseau de prières, Pauline a lancé une grande collecte d'offrandes sous une forme créative, en l'accompagnant d'informations sur la vie et les activités des missionnaires, a remarqué le Saint-Père, invitant tous les membres des œuvres pontificales missionnaires aujourd'hui à suivre sa foi concrète, son courage audacieux et sa créativité généreuse.
Des finalaires. Et lundi, à l'occasion de la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants qui se tient à Durban en Afrique du Sud, le pape avait adressé une correspondance à Monsieur Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail. Dans son message, François émettait le vœu que la présente conférence conduise à une prise de conscience et à un engagement accru de la part des acteurs sociaux et des organismes internationaux et nationaux compétents. Le pape François se rend en RDC du 2 au 5 juillet. Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwite, un diocèse situé dans le centre-est du pays, a raconté dans une interview à l'aide à l'église en détresse comment les catholiques se préparent à la visite du pape. C'est Saint-Pierre qui vient à nous. Il vient en tant que pasteur pour nous confirmer dans la foi et nous nous sentons très bénis par sa visite, a dit Monseigneur Bodika. En raison des nombreux conflits complexes et des difficultés persistantes qui ont frappé le 2e plus grand pays du continent, le message principal du pape François devrait être celui de la réconciliation, selon l'évêque de Kikwite. Jean-Baptiste Malengue nous raconte ce qui se passe à Goma.
Les 6 évêques membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu ont clôturé le dimanche 15 mai une session de leur assemblée tenue à Goma, dans la province du Nord Kivu. La messe de clôture s'est déroulée à 15 kilomètres de la ville, à Tchegera, au pied du volcan Nyiragongo, sur le lieu même où le Saint-Père François célébrera la messe le lundi 4 juillet. Le 15 mai, il y a eu plus de monde que prévu. L'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, l'a déploré. Il a d'ores et déjà prévu ce qu'il y aura sur le site à Goma, après la visite papale.
Ce sera un site de pèlerinage pour les diocèses de Goma et pour notre province ecclésiastique.
Dans les 6 diocèses de la province ecclésiastique, les inscriptions sont faites pour ceux qui participeront à la messe. Le samedi 14 mai, les 6 évêques de Butembo, Beni, Goma, Bukavu, Uvira, Kindu et Kasongo ont co-animé une conférence de presse pour rassurer sur la visite du pape. Le pape vient en artisan de paix, a rappelé Mgr Melchisedek Sikouli, évêque de Butembo Beni. Et Mgr François-Xavier Maroy de Bukavu en a appelé une fois de plus à la générosité de chacun pour contribuer financièrement à la visite papale.
Parce que si chacun de nous amenait ne fût-ce que 500 francs, quand on les multiplie par le nombre de ce que nous sommes, pas seulement comme chrétiens mais comme population, ça peut faire un bon et joli paquet.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
À l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec l'Ukraine, Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, se rendra à partir de demain mercredi 18 mai à Kiev et dans d'autres lieux touchés par la guerre pour démontrer la proximité du pape et du Saint-Siège en réaffirmant l'importance du dialogue pour rétablir la paix. Plus de 4000 femmes des organisations de femmes catholiques du diocèse d'Anéo s'étaient rassemblées les 14 et 15 mai 2022 en la paroisse Saint-Joseph l'Artisan de Aotoé pour les 21e journées diocésaines de l'Union mondiale des organisations catholiques féminines. Mgr Isaac Jogo Gaglo, évêque du diocèse d'Anéo, qui a lui-même présidé à l'Eucharistie des clôtures de la rencontre, leur a adressé un message.
Nous avons un grand défi à relever. Aujourd'hui, dans notre monde, l'éducation est bâclée. J'ai invité les femmes à prendre conscience du rôle qu'elles jouent dans l'éducation de la famille dans le monde aujourd'hui, et plus particulièrement dans notre diocèse. J'ai invité les femmes à être le flambeau spirituel de la famille en général, mais en même temps, je leur ai dit de savoir que nous sommes derrière elles.
Mgr Isaac Jogo Gaglo, évêque du diocèse d'Anéo, au micro d'Elisabeth Oussou du service des communications sociales d'Anéo. La conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire a tenu du mardi 10 au vendredi 13 mai 2022 son assemblée générale ordinaire au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata de Bengerville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Cette première session de l'année a porté sur la synodalité au sein de la vie consacrée en Côte d'Ivoire, suivant le compte-rendu de Marcel Ariston Blé.
La synodalité au sein de la vie consacrée en Côte d'Ivoire, c'est ce thème qui a conduit les travaux de la première assemblée générale ordinaire de l'année de la conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire. Ce thème, a expliqué le père Séverin Latte, président de cette institution, a été choisi pour être en phase avec le pape François qui a engagé tous les membres de l'Église depuis octobre 2021 à marcher ensemble, mais également à porter un examen profond sur cette marche ecclésiale. C'est bien de parler pour les autres, mais également il faut parler pour soi, voir comment on peut vivre cette synodalité, s'interroger sur les problèmes qui minent la vie consacrée pour davantage vivre de manière fraternelle, a indiqué le père Latte. L'Église catholique en Côte d'Ivoire compte plusieurs centaines de religieux religieuses qui vivent leur charisme dans les divers domaines de la vie socio-professionnelle, notamment l'éducation, la santé, la jeunesse, le social, le développement des femmes et des enfants. La vie consacrée dans le pays, à en croire le père supérieur provincial des Udistes en Afrique, se porte bien en dépit de quelques difficultés. Nous sommes dans une néoculture de la mondialisation. Les réseaux sociaux aujourd'hui, si on y prend garde, risquent de fragiliser la mission pour laquelle nous avons été consacrés. Chacun de nous doit prendre conscience que nous avons une lourde responsabilité qui est le témoignage communautaire de la vie consacrée authentique, a-t-il affirmé. Des défis sur lesquels les membres de cette famille ont longuement porté leurs réflexions en différents carrefours. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le Togo a rouvert mardi ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, fermées depuis plus de 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement. La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d'une preuve de vaccination, a précisé le gouvernement. Les opérateurs pour tenter de retrouver 8 mineurs portés disparus sous terre dans la mine de Perkoa au Burkina Faso depuis 1 mois se poursuivaient mardi. Depuis le 16 avril où ils ont été pris au piège après des pluies diluviennes, aucun contact n'a pu être établi avec eux. Les sauveteurs qui en sont aux ultimes phases de pompage espèrent encore qu'ils ont pu s'abriter dans une chambre de refuge située à 580 mètres de profondeur où des kits de survie comprenant de l'eau, de la nourriture et des médicaments sont habituellement stockés. Le chef du gouvernement libyen désigné par le Parlement, M. Fathi Bashagha, s'est retiré mardi de la capitale Tripoli après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place et déclencher des combats entre groupes armés rivaux. Après plusieurs heures de combat, le service de presse de M. Bashagha a indiqué dans un communiqué que ce dernier et ses ministres avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens. Les frontières terrestres entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert dans la nuit des lundis à mardi après plus de 2 ans de fermeture due à la crise de la Covid-19 et une brouille diplomatique récemment dissipée. Toutefois, la réouverture des frontières des 2 enclaves situées dans le nord du Maroc, en face de l'Espagne, reste limitée puisqu'elle ne concerne que les détenteurs de passeports et de visas de pays de la zone Schengen. Le gouvernement du Mali a affirmé lundi soir avoir mis en échec la semaine passée une tentative de coup d'État menée par des officiers et soutenue par un État occidental non précisé. Le communiqué lu à la télévision d'État a fait état d'interpellation sans plus de détails et indiqué que les contrôles avaient été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières. Le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici le 18 décembre prochain. Monsieur Oumaro Sissoko Embalo a invoqué des divergences persistantes et insolubles avec le Parlement qui est devenu un espace de guérilla politique de complot. Le décret présidentiel publié le même jour accuse le Parlement d'avoir protégé des députés mis en cause dans des affaires de corruption et d'avoir refusé de se soumettre au contrôle de ses comptes.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
Le correspondant en Éthiopie de l'hebdomadaire The Economist a été expulsé du pays qui lui reproche une approche erronée du journalisme, a déploré lundi le magazine, confirmant une information des autorités éthiopiennes. Le 13 mai, le gouvernement éthiopien a retiré l'accréditation presse de Tom Gardner, correspondant de The Economist à Addis Abeba. On lui a ensuite indiqué qu'il avait 48 heures pour quitter le pays, a déclaré le magazine dans un communiqué publié lundi. 11 migrants cherchant à joindre clandestinement l'Europe sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation au large de côtes algériennes de Tipaza, ont rapporté lundi un média et une organisation humanitaire espagnole. 5 jeunes, dont 2 enfants, ont pu être secourus, a précisé la chaîne de télévision privée El Ayet TV sur sa page Facebook. Au moins 5 personnes ont été arrêtées au Tchad après des manifestations violentes samedi contre la France, accusées de soutenir les militaires au pouvoir. Selon Max Loalngar, porte-parole de la plateforme d'opposition Wakit Tama, à l'origine de l'appel à manifester, les 5 personnes interpellées ne sont pas impliquées dans les actes de vandalisme. Plusieurs partis d'opposition comme le Parti Socialiste Sans Frontières et le mouvement politique Une Nation pour Tous, des syndicats tels que l'Union des syndicats du Tchad et certains groupes rebelles ont appelé à leur libération. Au moins 20 civils ont été tués la semaine dernière en Ituri, dans le nord-est de la RDC, dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Au moins 25 autres civils ont également été pris en otage par les présumés ADF, a annoncé lundi dans un tweet le baromètre sécuritaire du Kivu, qui dispose d'experts dans la région.
Vous continuez à être à l'écoute de Radio Vatican. À présent, notre magazine.
Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la Journée mondiale des télécommunications. Pour en parler, Stanislas Kambashi tend son micro à Monsieur Antoine Bagoula, qui est professeur des technologies de l'information et de la communication à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud.
D'entrée de jeu, veuillez nous expliquer brièvement ce que sont les télécommunications et ce qu'on appelle la société de l'information.
Les télécommunications concernent le transport de l'information en s'appuyant sur des techniques et systèmes électroniques et digitaux. Bien sûr, ce transport, c'est un transport à distance, bien sûr. L'information qui est transportée consiste en des appels téléphoniques vocaux, comme nous sommes en train de le faire pour le moment. Ça peut être aussi des données comme des fichiers électroniques échangés entre individus ou téléchargés à partir de serveurs comme le serveur Google. Ça peut être du texte échangé dans des courriers électroniques ou sur des réseaux sociaux, et aussi ça peut être des vidéos échangées comme des fichiers, attention aux messages, ou en temps réel à travers des plateformes de rencontres à distance comme Zoom, Teams, Google Meet, et aussi WhatsApp et Telegram. Donc, il faut vraiment, quand on parle de télécommunications, il faut noter que l'importance de l'Internet. Quand on parle de télécommunications, de transport de l'information, on ne peut pas ignorer le rôle de l'Internet qui joue actuellement le rôle d'une plateforme universelle pour toute forme de communication moderne. Concernant la société d'information, il y a eu des débats sur sa définition, mais en général, quand on parle de société d'information, on fait référence à une société où la création, la diffusion, la distribution, l'utilisation, l'intégration et la manipulation de l'information est une activité économique, politique et culturelle significante. Elle se caractérise par trois aspects importants: l'utilisation de l'information comme une ressource économique, l'identification d'une utilisation de l'information par le public et aussi le développement d'un secteur de l'information dans l'économie. Évidemment, quand nous parlons de télécommunications et de sociétés de l'information, tout ceci est étroitement lié aux réseaux informatiques et de télécommunications qui sont utilisés comme plateforme de support pour la société d'information ainsi que le secteur de l'information.
Justement, professeur, cette année, le thème de la Journée mondiale des télécommunications porte sur les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce thème? Comment les numériques peuvent aider les personnes âgées et tout le monde aussi à vieillir en bonne santé?
Nous savons tous que quand on parle du vieillissement, on fait référence directement à la perte de l'autonomie.
Exactement.
La perte de l'autonomie est un détriment majeur au vieillissement en bonne santé, puisqu'elle cause la détérioration mentale des personnes affectées et aussi automatiquement leur absence dans le développement économique. Sur les technologies numériques, quand elles sont appliquées, elles permettent aux personnes âgées de restaurer toute ou une partie de leur autonomie. Ceci est le cas, par exemple, quand on combine l'Internet des objets en utilisant des capteurs, des signes vitaux des patients, avec des protocoles de communication appropriés pour le suivi des malades et des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un grand-père qu'on laisse à la maison, on va au travail, on est capable de le suivre à distance et s'il y a quelque chose qui arrive, on peut appeler un médecin, une ambulance ou quoi que ce soit. Il en est de même des gens, par exemple, qui portent sur eux, dans leur corps, des capteurs, des signes vitaux. Par exemple, des gens qui ont des pacemakers ou autres, ils peuvent être suivis à distance. Ils n'ont pas vraiment peur d'être laissés seuls, puisqu'ils sont suivis à distance. Et c'est ça ce que les technologies numériques permettent aujourd'hui de fournir aux personnes âgées. À part cela, je parlerai aussi du cas de la médecine personnalisée qui commence à émerger. Cette médecine personnalisée, elle utilise une combinaison de techniques numériques telles que la bioinformatique, la génétique, l'intelligence artificielle à travers des techniques d'apprentissage machine, supervisée ou non supervisée. Elle utilise aussi d'autres technologies numériques pour parvenir à fournir, par exemple, un traitement approprié aux individus. En fait, cette médecine spécialisée permet de trouver des traitements personnalisés en fonction de la composition génétique spécifique des individus. Je crois que cette médecine personnalisée, non seulement sera bénéfique, non seulement pour le vieillissement, mais pour toutes les populations mondiales en général. Parce que quand on commence maintenant à vous traiter, à vous donner un traitement spécifique, qui est selon votre composition génétique, cela va commencer vraiment à augmenter la durée de vie des individus.
Professeur, parlons maintenant des télécommunications sur les continents africains. Selon vous, professeur Bagoula, quels sont les enjeux et défis de ces secteurs dans les pays du continent? Quand on sait, par exemple, que seuls 29% de la population africaine ont accès à Internet.
Comme je l'ai dit plus tôt, l'Internet est aujourd'hui la plateforme universelle pour toute forme de communication digitale. Et comme vous venez aussi de le dire, seulement 29% de la population africaine a accès à cette plateforme. Je crois que cette faible pénétration est due non seulement à l'absence de réseaux de télécommunications dans de vastes régions où les compagnies de télécommunications n'ont pas trouvé un intérêt à développer un réseau coûteux sans espoir de retour sur leurs investissements. Cette faible pénétration aussi est due au coût actuel d'accès qui est encore élevé pour le revenu moyen de la population. Comme je vous ai dit, je participe à des activités d'enseignement au Congo, à Lubumbashi spécialement. Je vois par exemple les difficultés que mes étudiants ont pour parvenir à communiquer avec moi, puisque à cause du système de méga, ils doivent charger et ça coûte cher. Alors, dans ce cas-là, je crois que le gouvernement a un rôle très important à jouer, de sorte à faciliter un accès à coût faible à cette plateforme.
Monsieur Antoine Bagoula, qui est professeur des technologies de l'information et de la communication à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Place à présent à Marie-Josée Mwando-Boabolo qui nous présente la rubrique Écuménisme et dialogue interreligieux.
Le Conseil œcuménique des Églises contribue à la réflexion sur le fondement théologique de la mission médicale, ainsi qu'à l'élaboration de nouveaux concepts chrétiens de soins de santé, tout en favorisant le dialogue entre les réseaux d'inspiration religieuse. Les nouvelles et anciennes épidémies ont été au cœur de la réunion du Conseil œcuménique des Églises à Nairobi, au Kenya. Le groupe de référence internationale des initiatives et plaidoyers œcuméniques pour la lutte contre le VIH et le SIDA du Conseil œcuménique des Églises, ainsi que le groupe sur la stratégie VIH et SIDA de l'Alliance œcuménique Agir Ensemble et la Commission pour la santé et la guérison du Conseil œcuménique des Églises se sont réunis à Nairobi, au Kenya, du 10 au 12 mai. La première réunion depuis le début de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 a été un moment de fraternité et de collaboration renouvelée. Réunis dans un monde en plein changement, avec l'épidémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, les participants ont souligné que les anciennes épidémies, les guerres et les défis demeurent et que ces événements ont eu un impact considérable sur les travaux liés au VIH et les objectifs fixés. Le VIH continue d'impacter la vie de millions de personnes et il reste une menace pour la santé publique malgré les progrès réalisés. La décision du comité central de créer une commission des églises pour la santé et la guérison continue de susciter un grand intérêt. Les statuts de la commission seront présentés en vue de leur adoption par le comité central en juin 2022. En Terre Sainte, les églises condamnent les violences aux funérailles de la journaliste assassinée. Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pierre-Baptiste Apisabala, le patriarche grec Théophilos, les évêques et les fidèles des communautés chrétiennes condamnent l'intrusion brutale vendredi dernier de la police israélienne dans le cortège funèbre portant le corps de la journaliste assassinée Shirin Abu Akleh. Le patriarcat latin de Jérusalem, le patriarche grec orthodoxe ainsi que les évêques et fidèles des communautés chrétiennes dénoncent un manque de respect à l'Église de la part de la police qui a fait irruption dans un institut de santé chrétien en envahissant l'hôpital et en attaquant les personnes en deuil en les frappant avec des matraques, en utilisant des grenades fumigènes, en tirant des balles en caoutchouc. En effrayant les patients de l'hôpital, la police israélienne a fait preuve d'un usage disproportionné de la force, relève les églises de Terre Sainte, qualifiant cela de violation grave des normes et règlements internationaux, y compris le droit humain fondamental de la liberté de religion qui doit être respecté également dans un espace public. Les églises orthodoxes se sont réunies à Chypre cette semaine pour préparer la 11e assemblée du Conseil œcuménique des églises ainsi que pour prier et réfléchir ensemble sur la manière de maintenir le dialogue ouvert malgré les nombreuses difficultés auxquelles le monde doit faire face. 52 délégués représentant 20 églises orientales et orthodoxes orientales membres du Conseil œcuménique des églises ont pris part au rassemblement. Le père Johann Soka, secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, a, dans ses remarques liminaires, évoqué le caractère unique du rapprochement des Églises en ces temps difficiles et exigeants et le rôle crucial du Conseil œcuménique des Églises pour les réunir. Prends courage, c'est moi, n'aie pas peur. Les paroles rassurantes que Jésus adresse aux apôtres troublés et incertains après l'avoir vu marcher vers eux sur les eaux dans le lac de Tibériade dans l'évangile selon Saint Matthieu ont été choisies comme devise de la 12e Assemblée générale du Conseil des Églises du Moyen-Orient qui s'est ouverte au Caire en Égypte dans la matinée de lundi 16 mai. Les représentants de 21 églises et communautés ecclésiales présentes dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord participent aux travaux de l'Assemblée qui dureront jusqu'au vendredi 20 mai et sont appelés à partager des informations, des réflexions et des décisions concernant la condition actuelle et future des chrétiens au Moyen-Orient. La réunion se déroule pour la première fois en Égypte grâce à l'hospitalité offerte par l'Église orthodoxe copte et son patriarche Tawadros II. Au moins 17 patriarches et chefs d'église et de communautés ecclésiales participent à l'Assemblée.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Donatien Nyembo qui vous a tenu compagnie vous dit merci pour votre écoute fidèle. À la prochaine.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis. Car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur.